Les sceaux et papiers signés en termes de flânerie hydrographique.
Je fais un petit préalable rapidement, mais voilà un peu la trame de mon intervention. Hein. Comment j'ai découvert la carte de Gascogne. Ensuite, une proposition de balade sur la carte pour retrouver l'eau. Et puis, bon, après, un petit peu pour avoir quelques conclusions. Sur les ouvrages d'art qui franchissent la rivière Allier, hein, depuis la source jusqu'à Nevers. Et puis, donc, dernièrement, je suis revenu sur la Tiertaine pour faire un peu la synthèse de tout ce que j'avais accumulé comme information sur ce cours. Voilà, donc c'est un peu pour supprimer tout ça. Alors, aussi, ce qui me plaît bien, c'est pourquoi je me suis investi aussi beaucoup sur la Tiertaine, c'est que j'ai trouvé ce poème d'une collègue auteure. Si l'eau a une mémoire, que dira le ruisseau dès sa première quête à même le rocher. Et là, bon, en se situant pratiquement juste sous la source de la Tiertaine, qu'est-ce qui se passe ici, hein? Parfois, on s'en arrivait avant l'arrivée des eaux vers la ligne. Alors, bon, je reviens sur Cassini maintenant. Donc, voilà l'espace de la carte 52. Et on se retrouve avec quatre bassins versants. Le bassin de la Loire, le bassin de la Dore, le bassin de l'Allier, puis en marge le bassin de la Soule là-bas. Et puis entre les deux, on a des lignes de partage des eaux. Alors là, bon, ouais, je passe rapidement sur la carte de Marie-Antoinette, là on la connaît. Bon. Alors voilà, voilà en gros la structure de l'hydrographie locale. Et puis ce que j'ai mis en étoile, ben, c'est les endroits où. Mon regard s'est arrêté sur cette carte. J'ai regardé ça au départ, j'allais dire, comme une œuvre. Bon, j'ai dit, tiens, voyons un peu ce qui peut m'accrocher. Et puis, quand même, j'ai quelques idées derrière la tête. Alors, donc, ce que je voulais, c'était d'abord faire un peu le point sur les cartes qu'il y avait précédemment à Cassini. Bon, en particulier, j'avais vu plusieurs fois la carte de Simeoni, du Boucher, etc. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a voulu représenter à chaque fois? Donc, Simeoni, c'était plus reconstituer un peu les éléments de la bataille de Gerbeville. Du Boucher, j'avais l'impression que c'était plus une aide à la stratégie militaire. Et puis, la Jonchère, c'était plus une gestion un peu du territoire, mais à chaque fois, c'était une représentation, je dirais, infra-régionale. On n'était pas... à l'échelle du royaume. Bon, et donc à chaque fois, ce qu'on avait représenté, ben, c'était essentiellement la base du territoire, bon, le relief, les frontières, les villages, les routes, un peu de quoi se repérer sur le terrain. Alors voilà les fameuses cartes. Bon, déjà on a des orientations qui sont complètement différentes d'une carte à l'autre. Donc celle de Simeoni, elle est quand même dirigée vers le nord. Alors ce que j'ai, la pastille rouge correspond un élément sur lequel je vais revenir plusieurs fois, c'est la partition en deux bras de la tête quand elle descend depuis le Puy de Dôme. Hein, donc ça, j'y reviendrai plusieurs fois. Et par contre, on ne l'a pas. Il y a une différence là, c'est que sur Simeoni et puis sur la Jonchère, on a bien ce partie d'où là qui est indiqué là. Par contre, vous voyez que Clermont qui se situe à cet endroit-là, on n'a pas les. Et les deux cours d'eau ne partent pas du même endroit. Voilà. Alors, donc, pour en revenir maintenant à l'époque Cassini, bon, je ne parle plus de la Jonchère, et j'ai fait des comparaisons pas mal entre les cartes de Truden et la carte de Cassini. Alors, déjà, Truden, son objectif, c'était de montrer l'implantation des futurs grands axes routiers du royaume, puis surtout d'indiquer en même temps, à côté de leur localisation, c'était tous les ouvrages d'art qu'il fallait construire pour permettre de franchir des obstacles. Pour Cassini, ben, on a une autre représentation du territoire, hein, qui est assurée aussi par, je dirais, moi, pour moi, il y avait ce gros travail qui a été fait sur la cohérence des symboles, et puis surtout, bon, je dirais, par ce qui a été montré tout à fait au début, par la triangulation, alors qu'au départ, on était plutôt sur du dessin. Alors, voilà un exemple de la carte de Truden. Donc, on a en particulier, pour ceux qui connaissent Clermont, on part depuis le quartier Fongière et on arrive presque au pied de la route qui monte au Puy de Dôme, hein, sur Orsine. On a ici le village de hameau de la Baraque. Et ce que j'ai mis, les dessins des ponts qui étaient à construire ou qui étaient déjà construits, donc entre autres le pont de Fongièvre sur on l'appelait la Tirantaine à ce moment-là. Hein, la côte de Prunel, c'est ici. En fait, c'est cette montagne, entre guillemets, qu'on appelle maintenant la montagne percée. Hein, voilà. Et le village du Chais, ici. Le village du Chais se trouve ici. Et on a effectivement quelque chose, une sorte de tablègue insignifiant qui vient du bourg d'Orsine et qui descend en direction de Villars. Voilà. Alors, par contre ici, moi ce qui m'avait stupéfait, c'était, je dirais, le foisonnement des symboles. Hein, donc, je ne vais pas y revenir là-dessus, mais en particulier sur le domaine de l'eau, on a 36. Donc quand on regarde les cartes, j'y passerai tout à l'heure, Michelin ou Hygiène, on n'en a pas autant. Quoi. Donc voilà, ça c'était une première impression. Alors maintenant, pour vous amener, je dirais, sur ma proposition de flânerie, ben, en fait, mon regard s'est arrêté, je dirais, sur cette partie, le rectangle numéro 1, c'est la zone, ce qu'on appelle la zone des varennes. Alors c'est pareil sur les cartes actuelles, le mot varenne n'apparaît plus du tout. Enfin, moi, je sais pas, j'ai appris ça en travaillant sur le terrain avec des communes. Bon. Et ce qui m'a frappé, c'était la concentration des dents. Donc on fera un zoom après. Ensuite, ici, sur cette partie-là, c'est le Bas-Livradois, hein, la région, je dirais, en amont de Billon. Là, il y a vraiment pour moi une sorte de labyrinthe. C'est vraiment d'essayer de comprendre comment les eaux coulent dans ce secteur-là. Et puis le numéro 3, bien évidemment, c'est tout le secteur sur lequel j'ai travaillé pas mal, lié à la FIATEN et au cours d'eau qui passe sur l'agglomération. Alors, bon, les Varennes, voilà le secteur. C'est une carte qui avait été faite dans le cadre de la thèse de Max Durio, pour situer, donc, c'est la plaine de Limagne, hein, et la partie, je dirais, sud-est, c'est ce qui correspond aux Varennes. Donc, un territoire qui est très argileux. Et donc, du coup, la carte de Cassini représente un peu toutes ces chapelets d'étangs qui sont sur des cours d'eau qui sont très petits, qui dépassent des fois à peine le kilomètre, et on a des séries d'étangs derrière. Donc, c'est vrai que ça pose des questions. Alors, voilà un zoom. Donc, on voit encore ces étangs en chapelet. Et puis, bon, j'ai essayé de savoir, en fait, pourquoi... on avait ce phénomène qu'on ne retrouve pas ailleurs sur la carte de Cassini. Et en fait, bon, on avait effectivement certains servaient pour alimenter des roues de moulin. En général, on avait à cette époque-là aussi la pisciculture était très, disons, très courante. Et puis, alors, parfois, j'ai mis parfois irrigation. C'était plutôt après au 19e siècle. Ça, c'était des informations qui avaient été apportées, notamment dans la thèse de Max Durio. Voilà. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y en a pas d'autres actuellement? J'ai essayé de rencontrer des gens qui habitent dans le secteur. Et notamment, j'ai rencontré quelqu'un qui avait été à l'origine du musée de la céramique de Lezoux et qui m'a dit, mais ces étangs-là, en fait, ont été faits à la suite de l'exploitation de l'argile pour des tuileries, pour des poteries, hein, puisque le Zour, on a quand même tout un secteur de le Zour, Ravel, etc. Voilà. Et à chaque fois que, disons, l'endroit où on extrayait l'argile, où on pouvait s'en servir, en fait, on laissait l'eau venir dedans et ainsi de suite. Voilà. Alors, il y a eu d'autres explications, d'autres pistes, puisque, alors, je ne l'ai pas vérifié sur l'Adour, je ne l'ai pas trouvé sur l'Adour. Par contre, pour l'Allier, éventuellement, ça pouvait servir aussi en cas d'étiage, puisque l'Allier et l'Adour, à ce moment-là, c'était utilisé pour la bâtellerie. En été, on a effectivement des fois pas beaucoup d'eau, donc ça pouvait éventuellement apporter un peu plus d'eau. Mais bon, ce n'est pas vérifié complètement. Et puis, on m'a parlé de glacière. Alors, glacière, s'il y avait des châteaux, effectivement, quand on a un château, par exemple, il y avait souvent des glacières qui étaient organisées pour le châtelain. Et les rizières, bon, ben, on a eu un projet de rizière, mais uniquement au confluent de l'Adour et de l'Allier, donc un peu plus haut. Ça n'a pas duré longtemps, d'ailleurs. Alors, le deuxième, alors le Bas-Livradois, donc j'ai situé Villon là-bas, et voilà un peu l'hydrographie locale. Et ce qui m'avait bon, attiré un peu dans ce secteur-là, c'est qu'une fois, bon, il y a quelqu'un de Billon qui m'a téléphoné en me disant ben, « Vous ne pourriez pas nous indiquer où il y a la source de telle ou telle rivière ?» Je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Donc, j'ai dit « Je vais regarder un peu ce qui se passe. » Et puis, ben, grâce à Cassini, j'ai réussi à tracer, si vous voulez, toutes les lignes de partage des eaux. Hein, parce que c'est vrai que les cours d'eau étaient bien mis en valeur par, je dirais, le dessin des versants de chaque talweg. Donc, et du coup, je reviens sur la carte de Mauzin qui était présentée tout à l'heure. En fait, quand on voit la concentration des lignes de crête en un point, ben, c'est là qu'on se dit, ben, c'est finalement, là, on est au-dessus de tout le reste du territoire. Et effectivement, c'est là où on a l'implantation du château de Mauzin qui est en fait... pratiquement le plus important par rapport à Murol, qui est bien, je dirais, qui vit bien. Hein. Et celui-là, il était quand même pas mal en ruine et il n'est pas facile à remettre en état. Alors maintenant, dans tout le secteur, je dirais, de numéro 3, là, la partie entre la chaîne des puits et puis l'Allier, voilà, je voulais faire quelques zooms. Notamment, je vais revenir sur la chaîne des puits, je vais préparer le vent. Ensuite, le rebord de la faille de Limagne. Ensuite, le bassin de la Tierté d'elle-même. Ici, Je dirais un petit clin d'œil sur un projet de canal qu'il y avait entre Clermont et l'Allier, hein, pour profiter de la bâtellerie. Et puis, je fais un petit arrêt aussi sur l'Allier, du côté de Cournon. Ah, alors, là, je voulais faire un petit arrêt aussi sur l'hydronymie, puisque là aussi, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de noms de cours d'eau sur la carte de Cassini. Alors, la chaîne des puits est là. On a la Tirtaine qui descend le rebord de la faille. Et à partir du parti de Saint-Victor que j'évoquais tout à l'heure, on a une séparation entre la Tirtaine Nord et la Tirtaine Sud. La Tirtaine Sud rejoint l'Artière, qui s'appelait à ce moment-là l'Artier, et qui rejoint l'Artière rejoint l'Allier. La Tirtaine Nord, elle, s'en va en direction de. Elle rejoint le Béda, le Béda qui vient de. On parlait tout à l'heure de Saya Blanza, donc ça c'est le Béda qui passe par là. Donc le Béda ensuite rejoint. Le Rif vient de Châteauguay, et puis on a plusieurs autres cours d'eau, et le Béda rejoint la Morge ici, avant de se jeter à Maringue dans l'Allier. Alors là aussi, avant de poursuivre, pour connaître un peu le secteur, donc en haut à gauche, bon, c'est les différents cours d'eau de la métropole clermontoise. Là, ce bloc diagramme permet de revoir un peu la chaîne des puits ici, le rebord de faille, et puis les coulées dont on parlait aussi tout à l'heure, à partir de Grave-Noir qui se trouve là. Là, on a Grave-Noir avec la coulée des Ciseaux, la coulée de Saint-Jacques, et puis ici, la coulée des Roches qui vient du petit puits d'eau, hein, et la représentation du mar de Jouy. Alors, bon, la géologie, c'est pareil, donc on retrouve les matériaux volcaniques ici, la base granitique sur le plateau des Dômes, la faille qui se trouve ici, le rebord de faille, et puis nos fameuses coulées, donc ces eaux, Saint-Jacques et les Roches ici. Et puis on a aussi une coulée qui arrive sur le vallon du Colombier. Voilà. Et alors l'hydrographie résultante, c'est-à-dire le bassin versant de la Tirtaine, ben le voilà. Et j'ai rappelé ici les différents, là c'est pareil, je rentre un peu dans le volcanisme, les mares sur ce secteur sont indiquées ici, donc le mar d'Enval, le mar de Villard et le mar de Jaune. Voilà, et là on retrouve la vallée de l'Allier par ici. Alors, là ce qui est frappant aussi, ça m'avait, avant de découvrir la carte de Cassini, j'avais trouvé dans d'autres cartes dans mon boulot, sur une carte, je dirais, de l'Auvergne, quand on représentait que l'hydrographie, il y avait une grosse tache blanche là, au niveau de la chaîne des puits, quoi. Et là, forcément, dès l'instant où on a un matériau qui est, de scories, de coulées, etc., en fait, les eaux s'infiltrent très rapidement. Et je considère un peu tout cet espace-là comme une grosse éponge, quoi. Et en fait, les cours d'eau ne démarrent qu'au contact entre le milieu granitique qui se trouve ici, hein, ce qu'on appelle le haut de l'ancien Horst, voilà, et puis de l'autre côté, pareil, quoi. Alors bon, disons que la carte de Cassini représente bien, en fait, cet espace sans eau. Alors par contre, espace sans eau, mais quand même par rapport à l'actualité, par rapport à ce qu'on peut rencontrer quand on se balade sur le terrain, par exemple, la flèche du haut, entre le Pariou et puis la Fonte d'Armes, là il est indiqué un bout de cours d'eau, mais quand on est sur le terrain, on ne voit rien. Idem, quand on est au pied du puits de Dôme, on a, c'est pareil, un filet d'eau qui est représenté, mais actuellement, on n'a rien non plus. Le ruisseau qui passe par Enval, qui se trouve par ici, qui vient de la Chambre et qui fait ça, il est bien marqué ici, alors que dans la réalité, il est à moitié visible, hein, selon où on se trouve, je dirais, dans le milieu granitique ou dans le milieu des strates. Ensuite, sur la carte, j'en profite pour évoquer les moulins à cet endroit, sur le secteur de. Sur le secteur de la fonte d'arbre, voilà, on le verra mieux après. Pour moi, il y a une divergence d'implantation des moulins. Parce que sur tous les documents que j'ai pu voir, les documents cartographiques, il n'y a pas de moulins à la fonte d'arbre, ils sont plutôt en dessous, sur Fontanas. Voilà, et puis le ruisseau des Rigomont, voilà, lui, il est complètement disparu sous les scories. Aussi, un élément de compréhension du territoire, là, par rapport au relief et par rapport à l'eau. Donc, on a le profil en long de la Tirtaine ici, hein, le plateau des Dômes se trouve là, on a la descente, je dirais, sur le bord de Faille, et petit à petit, on a une zone de piémont qui correspond à la ville de Chavanières, et après, clairement, et on arrive dans l'Allemagne. Hein, là, le trait où on a le trait forestier correspond à l'implantation des moulins. On a une forte concentration de moulins au niveau de Roya, Chamalières, Clermont. Petit à petit, avec la pente qui diminue, les moulins s'éloignent les uns des autres. Alors ça, c'est un schéma qui est pour moi assez important. Et je reviens sur le parti doux Saint-Victor, c'est-à-dire que là, on est dans ça, c'est un schéma général pour tous les ravins qui cisaillent le rebord de Faille. Là, on a une zone de transit, et dès l'instant où on se trouve en sortie de ravin, on a un cône de déjection où l'eau va se répartir naturellement en surface, mais aussi on va la retrouver en profondeur. Donc ça aussi, ça peut avoir des incidences sur le fonctionnement de la dynamique fluviale après. Voilà, et puis ça, ce schéma-là, c'est simplement pour montrer, par rapport à ce qu'on appelle l'amphithéâtre clermontois qui se trouve là, c'est tous les endroits où on a une sortie de ravin et on a potentiellement des arrivées d'eau rapides, surprenantes. Alors justement, ce rebord de faille, le voilà, ici. Et bon, j'ai regardé un peu ce que ça pouvait donner, je dirais, par rapport à l'hydrographie. Hein, on a des ravins qui sont bien visibles. Hein, le ravin de Chanture qui se trouve ici, celui-là, il est bien indiqué. Ensuite, on a des ravins ici qui sont bien indiqués aussi. Par contre, il y en a d'autres qui existent aussi, qui sont à peu près de même importance, mais qu'on ne va pas trouver sur le terrain. On a des ravins qui arrivent ici, mais qui ne sont pas pris en compte. Hein. Et pourtant, ceux-là sont, je vais dire, aussi dangereux que les autres. Et puis en particulier, il y a ici, là, tout ce secteur-là, qui est ce que j'appelle la combe du Liabou, qui domine, enfin qui est en dessous du puits de Grave Noir. Tout à l'heure, on parlait d'une coulée de lave qui partait vers Proya, elle est là. Et en fait, tout ce secteur-là constitue une combe où on a des torrents qui sont assez, enfin, des grosses ravines qui peuvent amener de l'eau rapidement, et notamment. Voilà ce qui s'est passé. J'ai fait un zoom là-dessus parce que la crue exceptionnelle qui a eu sur Clermont, qui date de 1835, en fait, tout l'afflux pluviométrique est arrivé sur ce secteur-là. Hein. Donc, on a essentiellement deux ravins. On a le ravin de la Pépinière, ici, qui s'appelle aussi le ruisseau de Vaucluse, là. La Tirtaine coule comme ça. La combe du Liabou, elle est là, et l'orage est tombé pile poil par ici, et on a eu, sur Broya, on a eu en particulier 11 morts. Donc c'est quand même assez... Alors voilà la représentation, je dirais, presque actuelle avec les coupes de niveau du PLU, et j'ai même récupéré les dessins LIDAR, enfin la représentation LIDAR, de la combe du Liabou qui se trouve ici, et le ravin de la Pépinière ici, et puis je dirais l'exemple avec la représentation de l'hydrographie, hein, par par la Cartida. Donc là, c'est un fourmillement de cours. Donc comment arriver à représenter tout ça, c'est pas simple. Alors, sur le rebord de faille, bon, pris différemment, donc on retrouve de l'écluse sur un autre dessin. Et là, c'était le seul moyen de voir un peu comment ce relief était dans la réalité. Quoi. Donc ce sont des ravins qui sont très courts en distance, mais qui sont assez profonds. Et comme statistiquement, les orages à l'échelle du département du Puy-de-Dôme, c'est pas mal sur le rebord de la chaîne du plateau des Dômes qu'on a des fréquences d'orages. Donc ça vaut le coup de s'y intéresser. Donc là aussi, pour l'hydronymie, le Liabou se trouve là. Ça, c'est le ravin de la Tirtaine. Là, c'est la combe de l'Ermitage, le ravin de la Seille, le ravin du Gravier. Et là, le ravin, enfin la vallée du Colombier ou de Villard, qui descend comme ça dans ce sens-là. Et alors, donc ça c'est un dessin, enfin disons une image 3D qui était inclus dans le dernier bouquin, justement, parce que ce que je voulais, c'était absolument arriver à montrer, je dirais, la réalité de ces ravins. C'est vrai que depuis Clermont, quand on regarde un peu ce rebord de faille, on voit un espace boisé, mais on ne voit pas du tout la réalité de la morphologie de ce rebord. Donc voilà un peu les mêmes, plus ici j'ai rajouté le Rivali qui part dans ce sens-là. Voilà. Alors, les cours d'eau en Limagne, alors, vers une stabilité hydrographique. Alors là, tout de suite, autant dire que d'une carte à l'autre, c'est impossible de s'y retrouver. Hein, on est dans un espace très plat, on est dans la Limagne. Hein, et là, à chaque fois qu'on a eu plusieurs fois des périodes d'assèchement de la Limagne, hein, de drainage, et on verra après, on a eu des déplacements dans le cadre de l'extension urbaine de Clermont. Donc on a du mal à s'y retrouver à chaque fois. Alors, l'impossible hydronymie, ben c'est pareil. Donc dès l'instant où les cours d'eau se déplacent, je dirais, rapidement, ben, sur le terrain, ben les riverains, les habitants d'une façon générale, n'arrivent pas à saisir un peu quel était le cours d'eau. Et je vois en particulier ce qui se passait au 19e siècle, quand un meunier, par exemple, voulait faire des travaux sur son moulin, sur sa roue, sur le barrage, etc., ben en fait, il ne marquait jamais le nom de la rivière, c'était le ruisseau de tel quartier. Hein, pour bien faire, sur l'espace du bassin versant de la Tirtaine, moi j'avais noté 36 noms différents pour ce cours d'eau. Hein, voilà. Donc c'est difficile à trouver. Mais par contre, il y a deux noms de cours d'eau qui perdurent, quelle que soit la période, c'est le Béda et l'Artier. Alors, l'Artier, c'est le nom qui était donné même encore début 20e, j'ai vu des cartes de cette époque-là, aux archives de Clermont, où la Tirtaine Sud s'appelait l'Artier. Voilà. Pourquoi c'est passé à la Tirtaine après, j'en sais rien. Voilà. Donc ça, voilà. Alors, le report du réseau hydrographique, donc là aussi, c'est là où j'avais fait des comparaisons entre la carte de Cassini et ce que avait représenté Trudaine. Et donc là, j'ai trouvé, pour la première fois, ce cours d'eau-là, que j'avais jamais vu auparavant. Alors, notamment, on m'a reproché de ne pas avoir travaillé là-dessus quand j'avais sorti mon premier bouquin sur la Tirtaine en 1997, comme il n'y avait aucun cours d'eau de ce côté-là, bon, je n'avais pas fouillé l'affaire. Et puis le président de l'association des confiseurs de Clermont m'a dit « Mais vous avez oublié là, il s'est passé des choses, c'était tout un secteur couvert d'amandiers, d'abricotiers, etc. » Parce que jusqu'au début du XXe siècle, La confiserie, c'était, je dirais, une des premières, voire la première économie de Clermont. Donc, du coup, là, j'ai été agréablement surpris de trouver par Cassini l'existence de ce cours d'eau. Et en fait, en travaillant avec les gens de l'ex-équipement, la direction du territoire, ben, on se dirige vers, dans le cadre des cartes de risque d'inondation, vers une tiertaine sud qui partirait de là et qui s'en irait par là, parce que dès l'instant, tout ce secteur-là, maintenant, n'est plus considéré comme la tiertaine sud. Hein, tout est passé dans les tuyaux, hein, et les services techniques de la ville disent « Wow, ben, c'est un émissaire banal ». Donc, tout ça s'est passé sous les rues. Donc, vous voyez, c'est les mouvements actuels encore de balade du cours d'eau. Alors, là, je suis maintenant sur les... J'ai repris un peu quatre cartes différentes que j'ai superposées, des cartes de Trudaine, hein, sur les itinéraires. Donc, Paris-Languedoc, Bordeaux-Lyon, Clermont-Toulouse, Aurillac, voilà. Et j'ai retracé les cours d'eau. Et je me suis aperçu que, ici, on en avait un, que je n'avais jamais vu non plus. Donc, il n'est pas sur celle de Cassini, mais il n'est que sur celle de Trudaine. Et là, c'est vrai que, comme bon, j'ai parcouru tous les cours d'eau de l'agglo à pied, je dis, mais quand on est par ici, c'est un endroit où on avait les fameux ponts bâches, c'est-à-dire que la Tiertaine passait sur les voies ferrées, par-dessus. En général, c'est le contraire, mais là, c'est la rivière qui passait sur les voies ferrées. Et on avait effectivement un dénivelé ici, dans le secteur de la Pradelle, où on a une série de moulins. Hein, et je me disais, mais comment se fait-il que d'un seul coup, on fait un angle droit là? Et en fait, l'explication vient là. Enfin, elle vient que au début du 19e, eh bien, on a un gros chamboulement dans le secteur. C'est-à-dire que le train qui arrive en 1855, le voilà. Et notre ancien cours d'eau, ben en fait, il partait directement ici. Et donc, le fait de l'arrivée du train, et puis aussi l'aménagement des casernes dans ce secteur-là, fait que tout le cours d'eau qui se trouvait par ici, ben, a disparu. Et tout a été, je dirais, balancé sur du côté de la Pradelle. Alors, maintenant, ben, en fait, ça, c'est la représentation de deux plans qui date de à deux ans près, hein, 1900-1902, et qui ont deux objectifs différents. Celui du haut, il est issu d'un conflit qu'il y avait entre la ville de Clermont et les usiniers qui se plaignaient parce que dès l'instant où Clermont avait un projet de capter les eaux ici dans les sources Marpon, les usiniers disaient « bon, ben, si ». Clairement, on capte encore de l'eau pour l'alimentation d'eau potable. C'est toujours de l'eau en moins pour faire fonctionner nos usines. Donc voilà le schéma de cette époque. Et là, à la même époque, c'est un plan qui a été fait par les ponts et chaussées, mais là, qui était fait dans l'optique de la gestion elle-même de l'eau, notamment quand on avait des problèmes avec les usines pour l'implantation des barrages, des roues, etc. Donc, et là, par contre, celui-là il est très intéressant parce que là, on a le détail des noms de tous les cours d'eau principaux de l'agglo. Alors, là, les grands déplacements du secteur, je parlais des déplacements liés, je dirais, aux assèchements dans la Limagne, mais là, à la limite, on se situe entre Clermont et Montferrand, dans l'espace entre les deux villes. C'est la naissance de l'usine de Cataroux. Hein, donc, vous voyez, on avait la Tiertaine, on a en gros le cimetière des Carmes qui se trouve par ici, et la Tiertaine qui s'en va au nord de Montferrand. Et on avait un bief qui s'appelle le bief de Cataroux. Et ce bief de Cataroux, en fait, alimentait les moulins qui étaient à l'intérieur de la ville de Montferrand. Et donc, voilà, la Tiertaine, elle a été repoussée un peu plus haut. Il faut imaginer un peu que tout ça, ça peut être des pâtures, hein, puisque là, on a une laiterie, on a un moulin, on a une ferme, enfin voilà. Et ça, c'est la première étape. Deuxième étape, l'usine a besoin de s'agrandir. Hop, on repousse encore un peu plus haut la rivière. Hein, et puis voilà le résultat, je dirais, qui correspond à l'usine actuelle. Quoique l'usine s'est encore allongée ensuite, hein, puisqu'on a les pistes d'essai qui se trouvent par ici. Voilà. Et voilà une physionomie. Alors, puis, ça, c'est une photo prise du puits de Chanture, hein, où on a la cité de la peine, hein, parce que Michelin, en fait, c'est, je dirais, a grandi tout le long de la Tiertaine. Hein, je l'ai appelé la vallée du caoutchouc, hein, puisqu'on a l'usine de la Combo, l'usine de Palport, l'usine de Champmer, etc., l'usine de Cataro qui se trouve ici. Mais l'histoire n'est pas finie, puisque dans le cadre du PLU de Clermont, eh bien, la Tiertaine va se rapprocher de son itinéraire ancien, hein, puisqu'il est prévu qu'entre la place du 1er mai, c'est-à-dire Polydôme, on retrouve la Tiertaine à ciel ouvert, jusque vers le carrefour des pistes. Donc ça, c'est un projet qui est dans le PLU. Donc on a un retour, je dirais, de la Tiertaine, disons, sur son itinéraire ancien. Alors, autre déplacement de la Tiertaine, alors ça, c'est côté Tiertaine Sud. Alors, vous avez ici la place de Jaude. Vous avez ici, ben, où on se trouve, hein, la MSH. Alors, vous voyez que tout le réseau hydrographique de ce secteur est complètement, c'est vrai labyrinthe. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un ancien marais, et ça, c'est important de se rappeler qu'on est sur un ancien marais. Quoi. Le mar de Jaude, de toute façon, le mar de Jaude, tout ce secteur-là est inclus dans le mar de Jaude. Alors, la partie en bleu, c'est ce qui correspond au tracé de la Tiertaine Sud en 1900. En 1960, quand il y a eu les aménagements de tout le quartier, ce qu'on appelle le quartier latin, à l'université, la gare routière, enfin tout ce secteur-là, ben en fait, vous voyez, la Tiertaine a été dirigée dans des tuyaux, ça c'est la rue Lebon, hein, on se retrouve après ça dans la Pradelle, et puis, tout dernièrement, dans les années 90, dès l'instant où petit à petit, bon, ben, la ville, je dirais, s'est notamment agrandie sur les secteurs sud, mais en même temps avec l'imperméabilisation des sols, pour éviter les inondations, eh ben, on a enterré la Tiertaine, alors là on est à 15 mètres de profondeur, et là on est à 25 mètres de profondeur sous les rues, sous le boulevard extérieur de la ville. Et un peu l'évolution du cours d'eau. Donc là, je remets le schéma de tout à l'heure, mais j'y rajoute la partie plus basse. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez que le réseau hydrographique, ben, il n'est plus tellement aérien. Il est passé pratiquement sous les rues. À part quelques bouts de la Tiertaine Nord, qui est encore pas tout à fait enterré. Voilà. Et le parti d'où Saint-Victor, qui est là, la Tiertaine Sud s'en va par là, et la Tiertaine Nord s'en va comme ça. Alors, autre carte pour montrer l'évolution du réseau hydrographique. On a ici la ligne de chemin de fer de Paris, on a ici la 71. Et vous voyez que maintenant, alors qu'avant, on avait 5-6 cours d'eau qui partaient de la ville en direction de l'Allier, mais maintenant, on n'a plus que deux passages de la Tiertaine, hein, au lieu de 5. Donc tout le reste, tout ce côté-ci, en fait, les cours d'eau se sont transformés en drains. Ils ne transportent, enfin, disons, ils ne conduisent plus l'eau qui vient de l'ouest vers la ville. Alors, le projet de canal, bon, ben là, c'est plus pour l'anecdote. Un projet de canal qui serait attribué à Catherine de Médicis, dès l'instant où les chaussées étaient tellement mauvaises à cette époque-là, l'idée c'était de travailler avec la batellerie, qui marchait pas trop mal sur l'Allier dès l'instant où on avait de l'eau. Voilà. Bon, donc il devait y avoir ce quartier-là s'appelle le quartier du port, hein, c'était plus zone d'approvisionnement de l'Allier. Et puis le départ du canal devait partir d'ici, de ce secteur-là, le secteur des Carmes, hein, et pour rejoindre l'Allier. Alors on avait deux pistes. L'idée qui était évoquée, c'était d'utiliser les eaux de la Tiertaine ici, la Tiertaine Nord, là, et puis d'y adjoindre les eaux du Béda. Et donc de rattraper, alors l'idée c'était de rattraper éventuellement Maringue là-haut. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, cet itinéraire-là a été utilisé plus tard dans le cadre du TACO du chemin de fer qui reliait Gerza à Maringue. En fait, on est exactement au même endroit. Bon, autre possibilité, sinon, c'était de rejoindre directement au pont du château. Dès l'instant au pont du château, on avait 6 ports. Hein, c'était une grosse zone de transfert. On avait des petits bateaux en amont de pont du château. Et les transbordements se faisaient sur des bateaux un peu plus grands pour la vanne. Alors, j'en viens sur l'Allier. Donc là, trois endroits différents. Ce qui m'a alerté un petit peu sur la carte de Cassini, c'est que on a d'abord la liaison entre Clermont et cette route-là en direction de Billon. C'était l'itinéraire de la Via Agrippa, à l'époque romaine. Et donc, ce qui me semblait bizarre, c'est que dès l'instant où ici Pérignac, qui se trouve là, était considéré comme le port de Billon, on a marqué ici bateau, mais il n'y a pas de liaison routière entre Cournon et la suite du côté de Pérignac. Donc ça, c'est ce qui m'avait un peu interloqué, le pont de Pont-du-Château, et puis ici, cette partie-là, c'était la dynamique fluviale. Alors, voilà le pont de Cournon. Bon, je n'insiste pas plus, j'en ai parlé. Donc j'ai mis quand même à côté cette carte de l'état-major, 1820-1860, qui marque le pont suspendu qui se trouve ici. Mais c'est pareil, le pont suspendu se trouve, je dirais, pas en face d'une route qui mène à Cournon. Alors, le pont de Pont du Château, voilà le pont qui était prévu par Trudaine, hein, trois arches. Et qui me fait penser, à cette époque-là, j'ai l'impression que sur l'Allier, le schéma général, c'était du pont à trois arches. On en avait déjà un à la Bajas du côté de Brioude, à trois arches. Celui de Moulins, ici aussi, à trois arches. Mais celui de Moulins a vite sauté. Et je pense qu'après, à Pont du Château, ça a dû servir de leçon. Et en fait, le pont qui a été réalisé, c'est un pont à sept arches qui se trouve là. Voilà. Donc c'était simplement pour l'anecdote. Alors, pour la partie dynamique fluviale, voilà la représentation de Cassini de l'Allier entre le pont de Cournon qui se trouve là maintenant, enfin, il y a encore le bateau ici, et puis le pont du Château ici. Vous voyez la différence de placement de place de l'Allier. L'Allier se trouve complètement, je dirais, à droite entre Dallée et Moselle. Et notamment, on peut voir un point de repère. Ici, c'est un petit affluent de l'Allier qui s'appelle le ruisseau des Assas. On le trouve ici. Vous voyez que l'Allier, au moment de Cassini, l'Allier passait par ici. Quoi. Et là, maintenant, on se trouve, l'Allier attaque la falaise qui se trouve là, qu'on appelle la falaise de Malmouche, qui se trouve grosso modo par ici. Voilà, et voilà la fameuse falaise qui est quand même un beau. L'Allier grignote toujours très, très fort ce secteur-là. Bon, là, un petit arrêt vite fait comme ça pour faire des comparaisons entre les symboles de Cassini et puis ben, voir un peu quels sont les symboles des cartes actuelles, hein, donc cartes IGN et cartes Michelin. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on pourrait dire que Cassini pourrait être un précurseur un peu des légendes des deux autres. Voilà. Et donc, quel intérêt en fait du travail qui a été fait? Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est de comparer les divagations du réseau hydrographique, hein, cité. Ensuite, confirmer la position des zones humides. Ça, c'est vrai que c'est important, même si. La nappe phréatique de Limagne a été abaissée de 4-5 mètres dans les années 60, mais quand même, on a une base, je dirais, de marécage autour de Clermont. Hein, quand on voit que dans la cité de la Plaine, la cité Michelin, un peu après la construction de toute la zone, l'église qui avait été faite au milieu de l'édition s'est écroulée parce que les fondations n'étaient pas assez solides. Enfin, voilà. Donc, le marais, pour moi, c'est toujours important sur Clermont. Ensuite, situer les zones d'activité, ben c'est vrai que je ne me suis pas arrêté sur les moulins, mais on a des concentrations de moulins qui sont bien indiquées, notamment sur Royat, Chamalières, Clermont. Par contre, pour revenir un peu à la réflexion qui a été faite tout à l'heure sur le coin au milieu de la roue, bon, là, on n'a pas des coins partout, et puis surtout qu'on ne pouvait pas représenter tous les moulins qu'il y avait sur tout le long de la Tiertaine, enfin, avec les deux bras de la Tiertaine. Moi, j'ai compté plus de 106 moulins. Donc là, ils ne sont pas représentés, c'est sûr. Bon, et puis figer une étape sur l'évolution du territoire, hein, voilà, c'est ce qui est pour moi, c'est important, je dirais, de rafraîchir la mémoire de ses habitants. Alors, à condition d'avoir des données fiables, et c'est vrai que là, ce que j'avais repéré sur la carte actuelle de l'IGN, ben, c'est quand même quelques erreurs, parce que, en particulier, on a la Rivalie ici qui coule de ce côté-ci, hein, et non par ici. Idem, au point de vue de l'hydronymie, c'est pareil, ce secteur-là, c'est la Tiertaine Nord. La Tiertaine Nord est appelée le ruisseau des Ronzières par ici, alors que le ruisseau des Ronzières, il est plutôt par ici. Quoi. Là, c'est pareil, le tracé de ce ruisseau, en fait, il n'est pas là, il est le long des boulevards là-haut. Donc voilà, c'est des choses, il y a un problème de vérification à mon avis. Voilà, et en conclusion, bon, ben, voilà, pour moi, une aide à la compréhension du territoire, des découvertes, hein, comme le cours d'eau qui passe par Malière. Les manques, alors c'est vrai que les repères hydronymiques, on n'en a pas beaucoup. La présence des ports et des mouilles, les mouilles, enfin, c'était des petits ports, hein, c'était vraiment... Bon, on n'en a pas le long de l'Allier. Une aide à la gestion du cycle de l'eau, alors, rappelle les zones humides, voilà. Et puis le besoin de visibilité des ravins, parce que bon, je crois que le risque d'inondation, c'est important ici à Clermont, d'avoir ça en tête. Hein, parce que bah, c'est sûr ce qui s'est passé encore. Voilà, en octobre dans l'autre, je fais des comparaisons. Je vais avoir le rapport dans un mois. Moi, il y a des similitudes. Donc, voilà, la différence entre ici et le sud, c'est que le sud, ils ont l'habitude avec les puits et le nol d'avoir des grosses douches à l'automne régulièrement. Ici, c'est la roulette russe. Hein, voilà. Voilà, exercice de mémoire patrimoniale, bon, bah, l'énergie hydraulique, etc. Et puis, bon, ben, pour moi, c'était vraiment un réel plaisir de lécher la carte du regard. Hein, c'est un beau tableau. Hein, voilà. Et une belle mise en scène des connaissances géographiques. Voilà. Alors, bon, quelques questions. Ben, d'après, je l'ai dit par rapport au moulin, j'en ai pas assez parlé. Les questions d'échelle, c'est vrai que jusqu'où on peut indiquer le cours d'eau, hein, puisqu'on travaille avec des plans qui sont à des échelles complètement différentes, hein, entre 86 000 et puis, le 15 centième, on ne peut pas représenter la même chose. La typologie des cours d'eau, ben c'est pareil, quel rang hiérarchique, hein, puisqu'on en a vraiment toutes catégories. Ensuite, les critères de visibilité, on a des cours qui sont aériens, d'autres qui sont souterrains, mais souterrains, de façon naturelle, c'est-à-dire sous les coulées volcaniques ou, je dirais, anthropiques, hein, par le biais de l'assainissement. Voilà, donc quel rôle des vérificateurs, leur nombre, leur mission, voilà, etc. Voilà, donc des remerciements, chacun se reconnaîtra. Voilà.
Notamment de la communication qui est extrêmement riche, le fait qu'à plus de deux siècles et demi de distance, la carte des risques du bassin de Clermont-Tour peut être également revisitée, revue, réactualisée grâce à Cassini, cette redécouverte du bras sud de la Tiertaine qui avait été quand même, voilà, oubliée. Et puis il y a toute cette réflexion en effet qu'il faudra mener concernant la représentation des moulins, sur la densité, parce que Cassini, en définitive, met en exergue une densité.
Oui.
Voilà. Mais évidemment,
je ne les ai pas comptés réellement.
Ils peuvent être présentés sur la carte. Est-ce qu'il y a des questions?
Vous avez fait une fenêtre sur la, la région du Limousin. Il fait apparaître effectivement, de façon très très surprenante, cette position clé, en quelque sorte, de château d'eau sur plusieurs bassins. Et il y en a un qui pose une question à un certain nombre de médiévistes, puisqu'on rencontre dans deux séries de contes du châtelainie temporal des évêques de Clermont au XIVe siècle, les mentions inter dos rivos et inter vobus rivis, qui sont des chefs-lieux de châtelainie secondaire et de vigrille, et qu'on n'arrive pas à localiser. Emmanuel Grélois assimilant cette châtelainie à celle de Bourgade, et dernièrement, donc, l'un de mes doctorants, Thomas Réal, penchant plutôt pour la région justement de Mauzin. Donc, évidemment, je vous fais le rapport avec votre belle division sur la, à partir de la carte de Cassini entre les différents bassins de ruisseaux. Cette entre deux ruisseaux se trouve effectivement probablement sur l'une, sur l'une des parties de cet éventail.
C'est vrai que non seulement d'être fouillé, mais c'est vrai que là on est vraiment dans un labyrinthe. Quoi.
Merci en tout cas.
Stéphane,
j'avais une remarque, on est dans les deux des qui étaient sur le mouvement, enfin, comme ça, mais très loin, sur la géographie, on va dire physique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas simplement, il n'y a pas simplement une marque dans le passé, parce qu'au fond, alors pour les rivières, ça compte, parce que ça bouge beaucoup, les crédits, la ligne, etc. Tout ce qui est géologique, ça bouge un peu moins vite. Mais ce qui est intéressant, c'est dans le jeu de comparaison entre cette carte ancienne, des cartes actuelles, des travaux actuels, c'est que la carte, par sa singularité, mais ça pourrait être une autre, en fait, elle incite à poser des questions un peu différentes, en fait. Sur les mêmes choses. Et c'est souvent ça, les aperçus, c'est pas simplement où il y a des manques, où on trouverait des choses qui ne sont pas dans le. Mais c'est le décalage que ça introduit de dire, mais voilà, on la prend au sérieux comme une carte, pour l'exercice, si on la prend au sérieux comme une carte géographique, etc., voilà, qu'est-ce que ça pose comme question? Et là, les deux exposés étaient assez riches, parce que moi, ce que j'en retiens, en tout cas, c'est que finalement, la clé, l'esquisse topographique, elle n'est pas si mal que ça, quoi. dans l'ensemble. Non, mais là, il y a vraiment une évaluation de la qualité de ce topographique qui n'est pas. Enfin, si j'en
veux. Oui, c'est vrai que je n'ai pas insisté beaucoup sur le report, enfin, la distinction précise de la ligne de faille. Bon, on ne la voit pas tellement. Là, c'est le seul, je dirais. C'était pas connu.
Hein?
Oui, c'est. On a quand même un dénivelé de 300 mètres.
Oui, oui.
Il y a une façon de, à partir du jour où elle a été identifiée en tant que faille, elle était représentée dans les reliefs. Avant, c'était, on ne faisait pas la connexion nécessairement entre un relief un peu au-dessus, l'autre un peu au nord. Et donc, on crée des dessins, ce n'était pas toujours aligné, donc ce qui fait que cette affaire-là disparaît. Donc, pour les dessins faits à la main, les représentations des reliefs, moi, j'ai un collègue, fascine, qui est spéléologue et qui toujours donc, fait les usures dans les cavernes, dans les grottes, dans les réseaux souterrains, etc. Il passe son temps à mesurer, il va partout, il fait le temps. Et avec des moyens, je pense, complètement comparables à des produits de Cassini, il a une boussole avec un peu de calme, si ça descend, il utilise encore des fois des repères. Des outils qu'on utilisait avec le modèle romain, dans des grands systèmes, des niveaux à eau, là. Il est très primitif comme méthode, mais en même temps, c'est hyper robuste du terrain. Il se casse la figure, ça casse pas ses outils. On était avec un gars qui avait un théodolite à laser, et il s'est cassé la figure, on en a eu pour 7000 euros. Donc, mais alors, il dessine son cheminement, et alors tout ce qui est autour, il le dessine comme ça, à la main. Ce qu'il dessine est parfaitement, moi j'ai eu l'occasion d'utiliser ces levées qui étaient avant qu'on fasse des véhicules dans la chaîne des puits, donc il n'y a rien à dire. Je veux dire, quand on prend en compte le fait que c'est quand même pas la même chose, c'est parfaitement placé, les choses sont mises à l'échelle. Et donc, je pense que les gars qui, à longueur d'année, deux jours, de l'année, etc., se baladaient, ben, ils avaient pris un coup de main qui était quand même très fidèle par rapport au relief. Donc, encore une fois, je suis dit que je suis pas bien d'accord avec ce que disait Cassini en disant c'est du remplissage, c'est pour faire beau. En réalité, il y a de la. Je suis persuadé qu'il y a une information dedans.
Mais ce que vous avez dit.
Oui, peut-être que j'ai dit, mais à l'échelle.
Il se défendait peut-être des critiques.
Déjà, bon, là, il y a des points qui sont vraiment
juridiques.
Mais le reste, non.
Ce qui est géo-référencé.
En tout cas, je trouve que l'exposé en fait la centralité des rivières, des fonds et de l'eau en général dans l'économie. Et peut-être ça pose aussi la question de quand il y a eu le passage plus loin. L'eau a commencé à disparaître, c'est avec le chemin de fer, par exemple.
C'est dans le bouquin, j'explique tout ça. Ben, j'expliquais le scénario, justement, puisque, entre autres, la première question de ma thèse, c'était pourquoi les Clermontois ont recouvert leur fourneau. En fait, c'est un scénario qui a duré pendant 170 ans. On a commencé par camoufler les tout petits cours d'eau qui étaient les plus faciles, je dirais, à boucher, à faire, parce qu'il y avait une pollution. Un groupe d'habitants disait, bon, il y a de la pollution, faites quelque chose. Et en fait, on déplaçait le problème 39 ou 40 mètres plus loin. Ça a commencé comme ça. Et puis, à la fin, ça a été vraiment la grosse armada avec l'évolution du béton, l'évolution des moyens techniques de terrassement. Hein, maintenant, une pelle, vous faites deux coups de godet, vous remplissez un camion. Hein, alors qu'avant, c'était tout à la pelle. Quoi. C'est pareil, les aqueducs étaient en pierre, en maçonnerie au départ. Hein, maintenant, vous mettez des éléments pour fabriquer le béton. Et tout ça, ça se court à toute vitesse. Quoi. Donc, là, bon, les raisons sont multiples. Hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça pourrait être loin. Je cite la Bible, je cite l'hygiénisme, je cite l'évolution des industries, etc. C'est toutes ces raisons-là cumulées quoi, qui ont fait ça.
Intervention
Claude. Juste un petit mouvement en ce qui concerne les moulins. Je voudrais évoquer sous votre contrôle le droit fondé en titre. Parce qu'il paraît que sur le droit d'usage et d'accès à l'eau, qui est un des droits les plus anciens établis par la royauté française, actuellement dans le droit d'usage et d'accès à l'eau, lorsqu'un propriétaire riverain d'un cours d'eau veut rénover ou réactiver ou implanter un moulin sur sa rive, il y a toute une démarche auprès des ministères de l'environnement, de l'écologie. Mais en plus, il paraît qu'il faut qu'il prouve son droit fondé en titre, c'est-à-dire qu'il appuie sa demande sur un document daté d'avant la nuit du 4 août 1793. Parce que c'était un privilège de l'accès à l'eau. Et donc, pour rénover un moulin, il faut. Et la carte de Cassini est. Et un des arguments, une des preuves de l'existence du moulin à cet endroit, enfin, sur ce territoire. Voilà. Est-ce que vous avez vu ça?
Si, j'ai entendu parler de ça. Et c'est vrai que la carte de Cassini, c'est bien si on est dans un moulin qui est isolé, mais quand on est comme sur Royal, on a une série de
moulins. C'est écrit que la carte de Cassini est une preuve.
Bon, moi j'avais entendu dire qu'il y avait aussi une histoire de droit d'eau, parce que là, il y a beaucoup de transmissions qui n'ont pas été faites par les notaires, au fur et à mesure des notaires et tout ça, et c'est un notaire qui m'avait dit ça, il y a eu des manques, des notaires qui disaient, on ne va pas sur l'acte, et puis après, on va passer.